Bonjour à tous. Si vous aimez la société de minuit et que vous voulez m'aider à pouvoir continuer à sortir des épisodes, sachez qu'en plus des étoiles et des commentaires qui aident beaucoup le podcast à se faire connaître, vous pouvez maintenant aussi m'aider financièrement sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si ça vous intéresse, je vous explique tout dans une vidéo sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir. Aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Paul est un petit garçon très curieux. Il se pose beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure et se retrouve souvent à la bibliothèque pour chercher des réponses. Grâce à cette curiosité et aux récits fantastiques que lui racontait son père, il grandit en restant ouvert au monde invisible qui nous entoure. Et c'est au cours de sa vie d'étudiant qu'il va vivre ses premières expériences paranormales. Cette histoire s'intitule... Pour éviter de voir.
J'ai grandi en banlieue parisienne, vraiment dans une zone pavillonnaire. Enfin, au départ dans une cité, puis après dans une zone pavillonnaire. Et donc, on était tous à peu près du même âge, même niveau social à peu près. Ma maman est française et mon père est congolais. Et lui, il est arrivé en France au tout début des années 80. Et en fait, ils se sont rencontrés dès son arrivée. Et 3 mois après, ma maman était enceinte de moi. Dans ma famille, du coup, moi, j'ai un frère et une sœur. Et je suis l'aîné. Quand j'étais enfant, j'étais un enfant assez... mélancolique. En tout cas, il y avait souvent des commentaires de mes profs qui me disaient que j'étais très souvent dans la lune, j'étais assez rêveur. toujours à penser à des grandes idées. Je me rappelle, j'essayais de comprendre qu'est-ce que c'était l'infini, qu'est-ce que c'était l'espace. Donc toujours un peu en demande de savoir. Et assez vite, je me suis intéressé aux fantômes, on va dire. Alors je ne me rappelle plus du tout comment ça a commencé. Mais je me rappelle juste aller à la bibliothèque les mercredis quand j'avais pas d'école pour regarder des photos, des livres de photos de, je pense que ça devait être début du 20e siècle, fin du 19e siècle, d'ectoplasmes et de fantômes qui me faisaient peur mais me fascinaient à la fois. Et donc je pense que c'est comme ça que ça a un peu commencé. Et bien sûr aussi les récits de mon papa qui nous racontait des histoires tous les soirs parce qu'on n'avait pas de télévision. Il se mettait à nous raconter des contes qui venait de son clan. Des contes où il y avait des personnages qui étaient hyper durs à visualiser parce que c'était des gens qui avaient, par exemple, juste des moitiés de corps, qu'une jambe, qu'un bras. Et c'était toujours des contes qui avaient quand même pour but de nous apprendre une leçon. Il y avait toujours une morale. Et ça se passait très souvent dans la forêt vierge, dans la forêt équatoriale, avec des animaux. Et donc je pense que ça a aussi contribué à développer un imaginaire qui ensuite m'a servi plus tard parce que je suis artiste et que je vois que ça commence à réirriguer mon travail assez fortement. Mes deux parents, je pense mon père, de par des croyances aussi liées à l'animisme et tout ça, avait une sensibilité très forte à ça. Et ma mère, qui a grandi en Corrèze, qui est dite une terre de sorcières, je pense qu'il y avait vraiment aussi une ouverture à ça. Et donc, je me suis jamais posé en sceptique. Et je pense que c'est une position qui était pas du tout présente dans ma maison. En fait, je me rends compte de ça maintenant, en parlant. Sans que ce soit non plus hyper présent, mais c'était là. Et voilà, par des petites choses, je pense des petites pratiques aussi, tu vois, de mon papa aussi pour célébrer ses ancêtres, célébrer aussi ses frères et sœurs qui sont restés au pays, certains qui sont morts. Donc il y avait toujours des petites choses, tu vois, de l'alcool versé dans les plantes pour remercier les ancêtres, ma maman qui nous regardait les lignes de la main sans jamais nous dire vraiment ce qu'elle y voyait, tu vois. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez présent à ce niveau-là, je pense. À partir du début de mon adolescence, j'ai, comme beaucoup d'adolescents, je pense, été attiré par le spiritisme. Et puis, j'ai refermé la porte tout de suite parce que ça m'a fait très peur. Même si rien de particulier était arrivé, tu vois. Enfin, je pense pas. En tout cas, quand j'y repense, c'est plus des événements où tu surinterprètes ce qui se passe. Mais juste ça m'a suffi à vraiment ne plus pouvoir entendre parler de fantômes de mes, je dirais, 11 ans à mes 20, 21 ans ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, tout doucement, je me suis remis à y repenser. Et c'est beaucoup plus tard, enfin c'est vraiment tranquillement, c'est parce qu'au départ, j'avais souvent des intuitions à propos de personnes, de gens. J'étais assez perceptif, sans pouvoir vraiment nécessairement l'expliquer. Pas vraiment des visions, mais juste comme des idées, tu vois, qui émergent. Et puis souvent, ces idées-là, elles se trouvent être vraies. Et donc, j'y suis retourné tranquillement, d'abord par le tarot, en fait. Le tarot de Marseille que j'ai commencé à apprendre, à décoder et à lire quand j'avais 26-27 ans. Et puis, vraiment, la première expérience qui m'a vraiment perturbé, c'était quand j'avais 27 ans, j'ai déménagé au Canada, à Montréal. Je venais juste de rompre avec quelqu'un avec qui j'étais resté 7 ans. Et j'avais déménagé dans un autre appartement, dans une colocation où je connaissais personne. Et là, un été, j'ai commencé à avoir des sortes de visions au réveil. Et donc, c'était très tôt le matin, je me réveillais et d'un coup, il y avait comme une sorte de vision, mais très, très vive et très soudaine, quoi, en tout cas. Quelque chose qui apparaît et qui disparaît vraiment dans la même seconde. Donc, la première fois, je me suis réveillé dans ma chambre et je tourne la tête vers la gauche et là, je vois comme une sorte d'araignée transparente qui file jusqu'au plafond. C'était plusieurs araignées, donc c'était comme une sorte de groupe d'araignées qui s'éclataient dans différentes directions. Et ouais, bien la taille, peut-être un peu plus petite que ma main, mais des grosses araignées. Et elles étaient transparentes et du coup, elles avaient la texture et la couleur du mur. Et donc à l'époque, la chambre était violette mauve, donc une image assez bizarre. Et donc je voyais ces araignées qui couraient, qui filaient vers le plafond. Et puis je me surprends comme ça à sursauter et je me rends compte que c'est plus là. Et puis peut-être 2 jours après, toujours dans ma chambre, là j'ai comme la sensation qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Je sens qu'il y a quelque chose et c'est plus comme si tu voyais du coin de l'œil une masse sombre et noire. Une ombre comme ça que je perçois du coin de l'œil. Puis l'ombre se précise, ça devient quelqu'un au bout de mon lit, assis de dos, avec une casquette. Là aussi, pas de détails, une silhouette noire. Et puis après, c'est quelqu'un qui se tient debout face à moi. Pareil, pas de détails, pas de visage, juste vraiment une silhouette noire un peu brumeuse. Et de la même façon, donc c'est-à-dire j'ouvre les yeux, je vois cette chose, je sursaute ou je referme les yeux et hop, ça disparaît. Ça a été progressif et c'était au cours de peut-être 1 ou 2 semaines. Donc c'était assez rapproché, mais à chaque apparition, la vision se précise. Et donc ça devient quelque chose de plus en plus visible ou moins difficile à ignorer en fait, quelque part. Et donc c'était chaque matin, la vision se précisait de plus en plus et je commençais à voir ce que c'était. Et il y a un matin où j'avais un nouveau copain, mon copain de l'époque, et là je me réveille et là la vision est ultra claire, dure beaucoup plus longtemps et je vois un jeune homme que je peux vraiment décrire, que je pourrais reconnaître si je le voyais dans la rue, habillé de façon assez moderne, qui agite un pendule au-dessus du corps endormi de mon copain. Donc si tu veux, je tourne la tête et je vois cette silhouette. Et là, j'hallucine. En fait, j'ai un sentiment en moi de... Il y a quelqu'un dans ma chambre. Donc je panique un peu, mais j'essaie de... Je regarde cette personne-là, il me sourit avec un espèce de sourire un peu malicieux. Et là, son image se dédouble, enfin se détriple. Elle devient 3, puis se referme. Et là, je ferme les yeux, je les réouvre et là, il est plus là. Et donc tout de suite, je réveille mon copain qui est là. Et lui, en lui confiant ça, direct, il cherche même pas à comprendre. Il explose en pleurs un peu en me disant « Non mais j'ai toujours senti un truc bizarre dans ton appartement. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne me veut pas ici. Il faut que je parte, je sais pas quoi. » Et donc là, il m'a conseillé d'en parler à d'autres gens. Et donc moi, jusque-là, en fait, ça m'a pas fait vraiment peur. C'était ça qui était étrange aussi. Je voyais ces choses-là, mais je n'avais aucun sentiment de peur en moi, quoi. Mais je me suis juste dit, la fatigue, je travaille beaucoup, c'est tôt le matin, j'ai tendance à avoir du mal à dormir, donc je me disais, mais est-ce que c'est des hallucinations? Je sais pas, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à des amis à moi, et moi je m'attendais encore une fois à rencontrer beaucoup de scepticisme et qu'on me dise, non mais n'importe quoi, Paul, tu dois être fatigué, tu vas trouver des explications rationnelles. Sauf qu'en fait, personne ne m'a dit ça. Tout le monde m'a dit, oh là là, Paul, il faut que tu utilises de la sauge. Moi à l'époque, je savais pas, enfin j'en avais peut-être entendu parler, mais c'était pas un truc que je connaissais. J'en ai parlé à ma coloc qui est brésilienne, qui elle avait un peu plus de connaissances de ça. Elle m'a dit, oui, il faut qu'on sauge l'appartement et tout ça. Et c'est en fait quand j'ai commencé à sauger l'appartement, là que j'ai commencé à avoir peur, à me dire, en fait, c'est vraiment bizarre. Et donc, elle a commencé à faire des recherches autour de l'histoire de l'appartement et tout ça. Elle m'a dit, non, mais j'ai trouvé aucune histoire de meurtre, juste histoire de viol. J'étais, oh là là, je suis pas sûr que je veux savoir. Et peut-être quelques mois après ça, j'ai déménagé, j'ai dû revenir en France. Et il n'y a plus eu d'autres manifestations. Et elles sont revenues, par contre, à d'autres endroits, d'autres moments dans ma vie plus tard. Et là, c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, c'est un truc bizarre, quoi. Et que j'ai essayé de comprendre après dans les années à venir. Donc je suis revenu en France pendant quelques mois, 1 an. Une des choses que j'ai faites, c'est d'en parler à mon papa, qui a eu aussi un lien quand même aux fantômes et à l'invisible assez fort, parce qu'il a beaucoup de rêves prémonitoires, beaucoup de rêves hyper symboliques, hyper chargés. Et donc je savais que je pouvais lui en parler. Et lui, il m'a dit tout de suite, parce qu'il est croyant, pratiquant, il m'a dit, oui, il faut que tu pries dès que ça arrive, il faut vraiment que tu te protèges, mais t'aurais dû me dire et tout ça. Puis ensuite, j'ai déménagé en Angleterre. Ma première maison en Angleterre, donc c'était à Londres. Donc très dur de trouver des logements et tout ça, j'étais un peu en panique. Et puis, miraculeusement, il y a cette maison qui arrive sur mon chemin avec une chambre disponible, budget invraisemblable, dans une coloc, donc 4 Anglais qui vivent là, tous musiciens, musiciennes. Et donc, moi, je commençais une sorte de résidence artistique. Et donc, il m'accueille dans cette maison-là, on me donne une chambre. Et dans la chambre, il n'y a pas grand-chose. Il y a un lit, une grosse armoire et un petit miroir en bois qui va avoir un peu son importance après dans le reste de l'histoire. C'est vraiment une chambre dans une maison victorienne, hyper mignonne, pleine de charme, mais un peu cassée. Le plancher est vraiment complètement défoncé, mais repeint. Donc ça donne un côté un peu joli. Il y a plein d'objets dans la maison parce qu'il y a beaucoup de gens qui y ont habité. Les propriétaires, c'est un couple de, je crois, ils avaient 90 ans, qui m'ont demandé aucune caution, rien du tout. Ils m'ont demandé une lettre d'un ou d'une amie, de quelqu'un qui me connaissait pour dire que j'étais quelqu'un de responsable et de gentil. Donc il y avait tout un truc un peu étrange, un peu marrant autour de cette maison-là. Et je me rappelle qu'au départ, c'était vraiment un sentiment très calme. Je me réveillais, il y avait une de mes colocs qui jouait de la harpe. Donc c'était vraiment un truc un peu idyllique, quoi. Et tout le monde me jalousait, genre dans un quartier trop bien. Enfin voilà, j'étais hyper content. Sauf que voilà, au fur et à mesure, je commence à avoir vraiment des nuits un peu plus agitées. Et là, j'ai ce même sentiment que des fois, il y a quelqu'un dans ma chambre. Et c'est hyper étrange. Donc, la façon dont ça se passe, là, par contre, c'est la nuit. Je me réveille vraiment avec le sentiment qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Et c'est comme si je commençais à voir des choses. Donc, au départ, c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est une sorte de l'arrière-train d'un chat ou d'un félin, je sais pas, avec des taches comme d'un léopard. Et ce qui est étrange, en fait, ce que je comprends, là, c'est un peu différent des autres visions que j'ai eues. La chambre est très noire dans l'obscurité. Je vois quand même les silhouettes des meubles et tout ça. Mais les figures, elles sont en couleur, comme si elles étaient en plein jour. Donc vraiment illuminées. Donc je sens cette présence-là et c'est comme si j'avais ce sentiment de danger. De vraiment me dire, il y a peut-être un danger dans ma chambre. Donc ce chat, je sais même pas comment le décrire. C'était une sorte de... Vraiment, je voyais que de façon morcelée. Donc c'était l'arrière, les pattes arrière et la queue d'un félin. Et le reste était abstrait. Donc c'est pour ça que je parle de figures, parce qu'après, il y a des figures humaines, vraiment, des gens que je vais commencer à voir dans ma chambre. Je me rappelle une première personne qui se tient debout à côté de mon lit. Je le vois, c'est un homme noir habillé dans un espèce de costume, d'un uniforme de, je sais pas, ça pouvait être un vendeur, je sais pas, un charcutier, un vendeur de je sais pas quoi exactement. Je me rappelle juste un uniforme blanc et vert avec une casquette, un tablier, qui me regarde comme ça, et en pleine couleur, vraiment. Je me dis, y a vraiment quelqu'un dans ma chambre, puis après je réalise, non, c'est pas possible. Et là, la vision disparaît, tu vois. Après, dur de se rendormir, je suis vraiment un peu en stress, mais pareil, je suis dans une espèce d'état de déni, donc c'est comme si j'oubliais, et le lendemain, je m'en rappelle, mais pas comme d'un événement super marquant. Donc c'est ça qui m'étonne toujours à chaque fois. Et ce qui est étrange, c'est que je garde en moi cette peur du paranormal, mais en même temps, quand ça arrive dans ces moments-là, il y a juste la peur qu'il y ait vraiment quelqu'un dans ma chambre, mais sinon, j'ai pas peur de cette vision-là. C'est hyper étrange. Dans cette chambre, par exemple, il y a eu aussi le visage d'une femme. C'était aussi une femme noire, avec une espèce de turban dans les cheveux, et elle, je voyais vraiment juste son visage, et elle avait vraiment un truc d'agressif. Vraiment, là, c'est un moment où encore une fois, j'avais amené mon petit copain de l'époque à la maison, il dormait à côté de moi, et là, il y a ce visage de cette femme qui s'approche, et normalement, ces visions-là, elles sont statiques, donc elles s'approchent pas trop de moi. Même le félin, c'était loin, enfin, c'était dans un coin de la chambre, donc je me sentais pas vraiment en danger bouger, quoi, de vraiment de devoir bouger. Et là, c'était un visage qui souriait, vraiment grimaçant, et qui s'approche de moi très très près. Et là, je crie en anglais « Laissez-moi, laissez-moi !» Et là, mon copain se réveille en panique, genre « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, je lui raconte, et il me dit « Ça doit être sûrement un cauchemar. » Et mais je lui dis « Moi, j'ai jamais des cauchemars comme ça. Quand j'ai un cauchemar, c'est une sensation très différente. » On dirait juste quelqu'un, une personne que tu peux vraiment voir dans la rue, quoi. Vraiment, c'est ça qui est perturbant. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à les qualifier pendant longtemps, parce que je les ai jamais vus comme peut-être des fantômes, mais peut-être qu'ils étaient des fantômes, je sais pas. Peut-être qu'ils sont des fantômes. Après, je suis artiste, mon travail m'amène à voyager beaucoup. Et donc, je me suis retrouvé dans des hôtels pareils où je commençais. J'ai vu des infirmières passer devant moi comme ça. Des masques grecs aussi, j'ai eu ça, mais géants, qui étaient là quand je me réveille. Des choses aussi beaucoup plus abstraites, menaçantes. Et puis, j'ai commencé à développer un réflexe que j'ai toujours encore aujourd'hui. En fait, maintenant, j'ai pris le réflexe de juste entrouvrir mes yeux. Quand j'ai ce sentiment, je me réveille avec ce sentiment qu'il y a quelqu'un, j'ai pris le réflexe de ne plus ouvrir mes yeux. Et du coup, je vois juste des morceaux de ces gens-là, donc des morceaux de vêtements, comme si t'avais quelqu'un à côté de toi quand tu dors, tu vois. Et tu vois à hauteur de hanche, un vêtement, peut-être des mains, quelqu'un qui est là, qui attend à côté du lit. Et j'ai même pris l'habitude de mettre un masque pour dormir, pour éviter de voir. Mais c'est là. Ça a été tellement présent à un moment dans ma vie que j'ai décidé justement de voir un médium pour des raisons autres. Mais lui, tout de suite, m'a parlé de ça, que j'avais une connexion avec l'ésotérisme, en tout cas avec l'occulte, très fort. Mon nom de famille, en fait, dans une des langues maternelles de mon père, parce qu'il en a plusieurs, ça veut dire le contenant de l'antidote. Donc c'est le contenant et l'antidote, donc ça veut dire la corne qui contient l'antidote et l'antidote en même temps. Donc il y a aussi ce truc là peut-être qui est déjà dans mon nom. Et donc il a commencé à me parler de ça et il m'a dit mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu fermes vraiment la porte à ça et que c'est comme si tu niais la présence de tes dents dans ta bouche. Ça sert à rien en fait, elles sont là, donc autant les utiliser. Et j'ai essayé, il m'avait donné des conseils et tout ça pour vraiment accentuer ces capacités-là, parce qu'il m'a dit c'est peut-être des gens qui viennent te parler, c'est peut-être des gens qui ont des messages pour d'autres. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça je le ressentais. Mais les seules fois où j'ai essayé d'interagir avec eux, vraiment de parler, j'ai essayé les deux. J'ai essayé de parler avec ma bouche, essayé de parler avec mon esprit, et j'ai jamais de réponse. C'est vraiment toujours des choses assez statiques, silencieuses, qui me regardent, vraiment. Et dans cette maison à Londres, après une des dernières nuits que j'ai passées là-bas, je me rappelle juste sortir des toilettes. Donc là, j'étais vraiment pas dans mon lit, pas du tout endormi. Et j'ai vu une ombre noire vraiment marcher comme ça dans le couloir et passer dans la chambre d'une de mes colocs. Et j'étais là, ok, ouais, cette maison, c'est sûr, il y a quelque chose. Et vraiment, ça s'est confirmé ensuite. Après, une fois que j'ai déménagé, parce que j'osais pas trop en parler, parce que j'avais toujours peur de passer pour un fou un peu. Et j'en ai parlé à des personnes qui ont habité dans cette maison-là et ils m'ont dit aussi avoir eu des expériences très bizarres. Après avoir déménagé de là-bas, j'ai commencé à m'intéresser justement au fait que des objets pouvaient être chargés d'une histoire et donc j'ai commencé à l'associer à ces objets-là. Mais bizarrement, ces apparitions-là, c'est comme si c'était des messagers pour quelqu'un d'autre. Sauf que je n'arrive pas à décoder ce message-là. Et ça, c'est devenu de plus en plus clair, justement avec un voyage que j'ai fait où j'ai passé 3 mois en République dominicaine. Donc un endroit aussi très chargé spirituellement. La résidence d'artiste dans laquelle j'étais, c'était sur une terre qui appartenait à un territoire indigène, qui a été bien sûr complètement éradiqué par la colonisation. Il a servi ensuite au dictateur Trujillo c'est devenu un champ d'exécution pour ses ennemis politiques, donc un endroit très chargé. Donc je m'attendais, avant mon arrivée là-bas, j'avais pris avec moi du Palo Santo. C'est la première fois que j'achète du Palo Santo et que je l'amène avec moi. Et ensuite, c'est une habitude que j'ai prise de l'amener avec moi dans les différents lieux. Et les 3 premières semaines où j'étais là-bas, mais c'était tous les soirs, j'avais des énormes sensations de présence aussi. J'ai vu un homme avec un chapeau à qui manquait un œil. Il y avait comme une sorte de vide au niveau de son œil. Et donc j'ai vraiment fait du Palo Santo et vraiment je sentais à chaque fois une sorte de résistance dans mon bas du dos, tu vois, à chaque fois que j'essayais de purifier l'espace. J'ai changé les meubles de place, j'ai tout fait pour essayer de m'approprier cet endroit-là, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est là où j'ai commencé à faire le lien avec mes relations amoureuses, c'est qu'à chaque fois que je commençais à être intéressé par quelqu'un ou je tombais amoureux de quelqu'un, ces choses-là s'accéléraient. Et c'était le cas en République dominicaine, où là, je suis tombé amoureux d'un homme qui était un peu l'encadrant de la résidence. Et qui, lui, c'est la première fois où je peux parler à quelqu'un vraiment de façon très ouverte de ces expériences-là. Parce que lui, il était très à l'aise avec tout ce qui était spirituel. Il avait vécu dans un ashram. Il avait été en relation avec un médium pendant 20 ans quasiment. Donc lui, il était très accoutumé. Et en fait, c'est la première personne avec qui j'ai commencé à avoir des intuitions, mais où là, c'était vraiment presque de l'ordre... Enfin, j'avais pas du tout de doute. La première fois que je le rencontre, on se parle, et j'ai l'impression de comprendre exactement là où il en est dans sa vie, ses frustrations. Et donc, on en parle beaucoup et tout. Et lui, pour lui, c'était vraiment tout à fait normal. Ça, je faisais presque rire que je m'étonne de savoir des choses comme ça sur lui. Et les visions se sont vraiment accentuées, ouais, à ce moment-là aussi. Vraiment le premier soir où j'arrive dans la résidence, donc on est 4 artistes, un Allemand, une fille kényane, une Américaine et moi. Et moi et l'Allemand, on décide d'aller boire un verre dans un bar à côté de la résidence. Et donc c'est une toute petite communauté qui est autour d'une école d'art et d'un campus universitaire, et donc tout le monde se connaît. Et là, il y a une dame qui m'approche, blonde, je ne la connais pas. Donc elle était la gérante de ce lieu, de ce bar. Et il se trouve qu'elle est française et elle me parle tout de suite en français. Donc elle a compris que j'étais français. Elle me dit, toi, tu es très ouvert. Il va falloir que tu te protèges. Il va falloir que tu te barricades un peu plus parce que ça veut dire que tu contrôles pas ce qui t'arrive, les énergies qui t'arrivent et tout. Il y a vraiment des gens qui vont être attirés vers toi comme ça et qui vont te pomper vraiment toute ton énergie. Donc j'étais un peu, ça faisait vraiment, moi j'ai vraiment eu l'impression d'être dans Twin Peaks un peu. Fais attention à Raoul, il est très puissant. Et donc Raoul, c'est cette personne que j'avais rencontrée quelques heures avant. Et donc là, je suis là, ok. Un mois après, elle me ressort une phrase comme ça. Elle me dit, non mais tu sais, Raoul est très puissant. Une fois, je l'ai entendu parler avec cette autre personne dans une langue que je comprenais pas, que je connais pas. Donc il y a tout un truc un peu mystique. Donc c'est comme ça qu'on en a commencé à parler avec Raoul. Et donc c'est pour ça qu'elle me parle de ces gens. Donc ça faisait vraiment, c'est pour ça que j'ai eu cette impression de Twin Peaks, quoi, vraiment de quelqu'un que tu connais pas qui commence à te dire des choses qui ont pas de sens. Et en fait, au début, on en a rigolé avec l'artiste allemand, un peu genre, bon, ok, c'est hyper bizarre. Et puis, au fur et à mesure, en commençant à connaître Raoul et en étant de plus en plus attiré vers lui, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un truc très fort chez lui. Et il me disait, non, mais moi, j'ai rien, j'ai jamais eu d'expérience, même si j'aurais voulu en avoir. Mais c'est bizarre, j'arrivais pas trop à le croire. Même peut-être jusqu'à ce jour-là, j'arrive pas trop à le croire. Et donc, on a commencé à parler de ça. C'est là où j'ai commencé à lui dire des choses que je ressentais à propos de sa vie. Et il a toujours confirmé ce que c'était. C'était pas des choses forcément faciles. C'est, par exemple, des choses liées à des gens autour de lui qui avaient des problèmes d'alcool ou de drogue. Et je sais pas comment je ressentais ça, mais je lui en parlais parce que je sentais qu'il y avait un potentiel danger ou quelque chose. Peut-être juste comme si j'informais un ami de peut-être d'une situation... qui m'était parvenu, mais c'était délicat parce que je le connaissais vraiment pas. Donc c'est un peu étrange. Et en fait, lui, il a accepté ça de façon très facile, quoi. Je reviens à Londres après cette résidence-là, un peu le cœur brisé, parce que je sais que je vais plus jamais le revoir et tout. Donc c'était cette espèce de romance un peu d'été, même si c'était pas l'été. C'était vraiment 2 mois, mais hyper intense. Et puis c'est une relation un peu compliquée parce que lui, il avait quelqu'un dans sa vie déjà. Moi, je sortais d'une espèce de rupture horrible. Donc il y avait tout un truc un peu assez qui finalement nous a un peu reconstruit. Et moi qui m'a rapproché de ça, d'accepter que j'étais sensible à quelque chose et de pas forcément le tourner en dérision ou l'ignorer. Donc je reviens à Londres et il me conseille d'aller rencontrer quelqu'un qui connaît, qui vient très souvent en République dominicaine et qui est un coach vocal, qui était le coach vocal de Lady Diana, la princesse Diana, mais qui est aussi voyant et médium. Et donc il me met en contact avec cette personne-là que je rencontre. Et là, c'était aussi une expérience très forte où donc j'arrive vraiment avec cette en le disant, voilà, j'ai des intuitions très fortes à propos des gens, j'ai des fois des visions de gens comme ça qui m'apparaissent dans ma chambre et j'aimerais savoir pourquoi moi, pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse en fait. C'est comme si j'avais une espèce de sentiment de devoir. Avant lui, j'avais déjà rencontré un médium qui m'avait dit « Oui, il faut que tu mettes ça un peu au profit de tes amis. » Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, que je pouvais être utile. Donc, j'essayais vraiment de trouver des réponses. Et lui, il m'en a pas tant donné que ça. Il m'a juste dit « C'est sûr, t'as vraiment cette connexion-là, ça te vient de tes ancêtres. » Il a commencé à me parler de mes ancêtres. Alors au début, moi, vraiment, je l'ai regardé un peu en mode « Ok, il me fait le truc de « Je suis un ancien prince africain, je sais pas quoi, tu vois. » Et puis là, il commence à me décrire des choses qui fait que je commence à comprendre que vraiment, il me parle vraiment de mes ancêtres et qu'il les voit. Il commence à tirer les cartes. Et puis là, je ressens une pression, mais monumentale sur tout mon côté droit, vraiment du visage à l'épaule, au point que j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Et il me dit, oui, bah c'est eux, ils sont là, ils te montrent que ils sont là pour toi, ils t'aident, et donc il faut que tu leur dises, faut pas que t'aies peur, faut que tu leur dises exactement ce dont tu as besoin, et donc il faut que tu t'en serves, il faut que tu établisses un contact avec eux, et vraiment que tu n'aies pas peur de leur dire si c'est trop fort, c'est trop fort, si t'as besoin d'eux, qu'ils soient présents, plus présents, il faut qu'ils soient là, tu les appelles. Et donc à partir de là, j'ai commencé un tout petit peu à les appeler, notamment quand je performais devant les publics, à leur demander de l'aide et tout ça, mais j'ai pas encore approfondi ça à fond. C'est des choses très nouvelles pour moi aussi, ces idées de guide, d'êtres qui t'accompagnent et qui te suivent. Et donc, je me suis même demandé si du coup, les gens que je voyais étaient aussi mes guides. Parce que il m'a dit oui, que j'étais accompagné. Et ça, c'est une phrase qui est revenue aussi dans d'autres séances que j'ai pu avoir ensuite avec d'autres médiums ou des chamans, parce que j'ai commencé à du coup essayer d'explorer ça de façon un peu plus intense, notamment au moment de la pandémie et du confinement, où j'étais encore à Londres, et de vraiment essayer de comprendre ce qui se passait. Jusqu'au jour où je croise le chemin de ce chaman haïtien, mais qui vit aux États-Unis, parce que justement j'ai encore des visions. Il se trouvait aussi que j'avais entre-temps une relation assez traumatisante avec un homme qui avait été abusif avec moi, où j'avais justement ignoré mes intuitions. Tout me disait non, 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 non. Et j'y suis allé et j'avais à chaque fois des rêves hyper forts. Et je me réveillais un peu traumatisé. Et c'est surtout qu'à chaque fois que je racontais ces rêves, ils devenaient fous, quoi. Et j'ai compris juste après notre rupture pourquoi ça l'avait mis dans un état comme ça. Où je rêve que je vois juste marcher de dos, très vite, dans un costume, il était toujours en costume, avec son téléphone, et tout le rêve, j'essaie de l'attraper, j'essaie d'avoir son attention, tu vois, de lui poser la main sur l'épaule et tout, et j'arrive pas. Et à la fin du rêve, il arrive dans une salle où il y a un coin avec une fenêtre, il se met à la fenêtre, je le vois, j'attrape, je le retourne, et là, je vois qu'il est ivre, et que son visage, c'est comme s'il se transformait en quelqu'un de vieux, et puis à nouveau lui, puis vieux, puis à nouveau lui. Et donc, moi, j'ai tendance à raconter mes rêves à mes amis, à ma famille. Et donc, je le fais. Et là, ça déclenche un espèce de truc mais monumental que je ne comprends pas. Donc, une sorte d'agression ultime, enfin, verbale. Il me dit, oui, tu veux me dire que j'ai un problème avec l'alcool, tu veux me dire que je suis comme ça. C'est un très grand manipulateur. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça. Sauf que on rompt. Et en fait, au moment de la rupture, quelque chose qu'il m'avait jamais dit, donc on est resté 9 mois ensemble, mais quelque chose qu'il m'a jamais dit, c'est que ses deux parents sont morts d'alcoolisme, et notamment son père. Et donc là, je suis là, mais ok, en fait, j'avais reçu quelque chose, je sais pas, et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Et là, il retourne contre moi, alors, tu m'as jamais demandé, là, 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 là. Donc, c'était vraiment un mec ultra toxique. Et donc, ce qui m'a amené à voir ce chaman-là, parce que je voulais me défaire aussi, peut-être j'avais l'impression d'être encore encombré de l'énergie de cette personne hyper négative. Et donc, c'était à la base, c'était ça. Et donc, le chaman m'a dit, oui, en effet, il y a un espace d'attachement, d'énergie, peut-être qui devient de ton ex. Je vais te donner quelques trucs à faire. Et donc, notamment, j'ai dû faire une sorte de piège à esprit ou à mauvaise énergie que je plaçais à l'entrée de mon appartement, j'ai dû faire pas mal de petits exercices et il m'a dit par contre t'as un objet qui te suit depuis pas mal d'années et il y a quelque chose, c'est un point d'entrée en tout cas et tout ça. Au tout départ, parce que j'étais encore trop dans la rupture, je pensais à un bol que mon ex m'avait offert dont je voulais me débarrasser et puis il m'a dit non, c'est pas quelque chose que t'as depuis là un an, c'est quelque chose qui te suit aussi. Et là j'ai pensé tout de suite au miroir que j'avais ramené de cette première maison en Angleterre, cette première maison à Londres, Et ce miroir qui était, voilà, rien de particulier vraiment, miroir des années 50, assez minimal, avec un bord en bois foncé, petit, donc peut-être 30 cm sur 30 cm, mais très lourd, et c'est hyper étonnant. Et donc là, tout de suite, j'ai compris que c'était ce miroir, et il m'a dit « oui, fais-toi confiance ». Et c'était un miroir que j'avais tout le temps aussi à côté de mon lit, donc je me suis dit « peut-être que c'est de là que les visions me viennent, peut-être que c'est un portail aussi, tu vois, j'ai commencé à comprendre aussi un peu ça ». Et j'ai mis de la sauge, je l'ai fumigué avec de la sauge et je l'ai abandonné sur un bord d'une route à côté de chez moi en m'excusant, en me disant « pardon, mais je peux pas garder ça ». Et après, oui, en effet, les visions se sont un peu calmées, quoi, même si elles sont revenues là, donc je me doute qu'elles ne sont pas forcément liées à cet objet. Donc à partir du moment que je comprends que c'est le miroir, c'est un moment aussi où j'ai décidé de commencer à méditer, d'accepter aussi de recevoir des messages. Donc là, il y avait des moments où vraiment je m'étais mis à méditer et à essayer de recevoir des messages à propos de gens vraiment que je nommais. Donc je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais genre parle-moi de Michael, tu vois, montre-moi quelque chose que je dois savoir à propos de Michael. Et donc je commençais à avoir des images, des flashs, et ça, j'ai commencé à accepter ça. Mais comme tout, j'ai pas poursuivi, quoi. Je l'ai laissé un peu tomber. Bizarrement, les visions se sont vraiment atténuées avec le moment où j'ai commencé à être plus ouvert, plus à communiquer aussi plus autour de ça. Et une des raisons aussi pour laquelle je t'ai contacté et pourquoi je m'étais dit, ok, peut-être c'est le moment de raconter mon histoire, c'était aussi d'essayer de rencontrer ou d'être en contact, mis en contact avec des gens avec qui pourraient m'aider, quoi, quelque part, et qui ont peut-être des expériences similaires. C'est une certitude qu'il y a une question de dimension autre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont en interaction, mais pas forcément visibles. C'est comme s'il y avait des sortes des trajectoires parallèles. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours, de regarder le monde à travers des perspectives alternatives et d'être peut-être dans quelque chose qui est plus expansif que vraiment l'approche cartésienne, rationnelle, physique, qui pour moi est très limitante et qui presque devient une espèce de dogme, et je comprends pas pourquoi ça existe, en fait, parce que pour moi ça fait pas de sens, en fait ça fait pas de sens. Et du coup, pour moi, il y a vraiment une coexistence, ouais, de différentes temporalités, peut-être différentes dimensions, et que peut-être que ce qu'on appelle les fantômes, oui, c'est ça, c'est des gens qui sont des créatures qui sont vraiment peut-être entre deux espaces. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment quelque chose où j'ai peu de réponses, mais c'est assez beau, c'est assez chouette. De la peur est né quelque chose qui est assez beau, où j'ai de moins en moins peur de ça, en tout cas.
Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.